C'est une joie pour moi que de me trouver parmi vous à nouveau ce matin. Il y a déjà quelques années que j'étais venu apporter la méditation. Et c'est toujours un privilège que de rencontrer d'autres frères et sœurs de nos églises, de l'association. J'ai bien sûr les salutations de la rue de Sèvres à vous transmettre. C'est un privilège qui m'est accordé de me trouver parmi vous ce matin. L'apôtre Paul est l'auteur d'un très grand nombre de lettres ou d'écrits dans le Nouveau Testament, 13 en tout, ce qui fait que c'est certainement l'auteur du plus grand nombre de textes de l'ensemble de la Bible. Un certain nombre des lettres qu'il a écrites l'ont été à des églises, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, etc. D'autres l'ont été à titre personnel, à des individus en particulier. Ils forment un groupe à part, que l'on appelle les lettres pastorales, les épîtres pastorales, comme par exemple l'épître à Timothée, l'épître à Tite. Ces épîtres traitent majoritairement de problèmes de discipline, de vie d'église, mais elles sont aussi, pour les hommes à qui elles étaient adressées, des conseils riches, des instructions pour les aider dans le travail auquel le Seigneur lui-même a appelé ses serviteurs. Ce sont donc des lettres précieuses. Et en y regardant de plus près, on se rend compte que ces lettres n'ont pas été uniquement adressées à ces hommes, Tite, Timothée, mais qu'à travers ces hommes, elles nous sont à nous également adressées. Elles sont valables pour tous les chrétiens. La seconde lettre de Paul à Timothée est probablement la dernière que l'apôtre Paul a écrite alors qu'il se trouve en prison à Rome. Au soir de sa vie, l'apôtre Paul se pose certainement une question. Comment l'œuvre que le Seigneur m'a confiée depuis de grandes années, comment cette œuvre va-t-elle se perpétuer? Comment la parole de Dieu, qui doit se répandre jusqu'aux extrémités de la terre, va-t-elle être annoncée à une grande foule par les témoins que Dieu lui-même a choisis à travers ses apôtres? C'est grâce à ces témoins dont nous sommes, que l'Église, à travers les siècles, s'est maintenue, s'est enrichie, s'est agrandie pour la seule gloire de Dieu. Et nous pouvons rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli depuis que notre Seigneur est reparti vers son Père dans les cieux. Quelle part le Seigneur lui-même attend-il de nous, aujourd'hui, dans les années qu'il nous reste à vivre, pour faire perdurer son œuvre et faire que sa parole, comme Jésus lui-même l'a dit à ses apôtres, se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Je pense que nous pouvons faire confiance à notre Dieu, qui est un Dieu de grâce et qui va continuer de manifester à travers nous la grâce qu'il a manifestée à ses saints apôtres. Eh bien, dans le cadre de notre culte, ce matin, j'aimerais m'arrêter sur quelques exhortations, sur quelques recommandations que l'apôtre Paul adresse à Timothée. Et j'aimerais faire deux lectures avec vous. La première, dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, les versets 1 à 5. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Et une deuxième lecture, toujours dans la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, les versets 1 à 6. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as appris de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de bon soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de récolter les fruits. C'est sur ce dernier passage que portera notre méditation ce matin. Paul donne à Timothée trois recommandations simples, mais essentielles. Et s'il les donne à Timothée, je pense que nous pouvons les prendre pour nous-mêmes, pour parvenir au but que Dieu nous a fixé, comme il l'avait fait à son serviteur Paul. Tout d'abord, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ensuite, ce que tu as reçu de moi, transmets-le à d'autres, à des hommes fidèles qui agiront de même. Enfin, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je pense que si vous avez porté attention au verset de ce deuxième chapitre, vous ne pouvez pas ne pas avoir remarqué comment l'apôtre Paul s'adresse à Timothée. « Toi donc, mon enfant. » Intéressons-nous quelques instants seulement à la personne de Timothée. Ce « mon enfant » montre que les relations de Paul et de Timothée étaient des relations d'amitié, d'affection réciproque, d'affection profonde. Le texte nous a dit tout à l'heure comment Paul priait pour lui, nuit et jour, 2 Timothée 1, verset 3, qu'il a eu beaucoup de peine à le quitter et combien sa joie serait grande de le revoir à nouveau. Cette affection vient probablement du fait que Paul a certainement été celui qui a conduit Timothée à la foi. « Mon enfant légitime, dit-il par ailleurs, mon enfant dans la foi. » Au vu de quelques passages, on pense en effet que Timothée s'est converti par le ministère de l'apôtre Paul. Acte 16, versets 1 à 3, 1 Timothée 1, versets 2 et 18. Mais le qualificatif « mon enfant » peut aussi être attribué à Timothée du fait que lorsque Paul s'adresse à Timothée, Timothée était encore un jeune homme, quelqu'un d'environ 30 ans. À l'époque, c'était un jeune homme. Certes, avec de l'entrain, des capacités, des connaissances, des dons, sans aucun doute, mais aussi avec des faiblesses. C'était quelqu'un, nous est-il dit, de timide, et quelqu'un dont la santé était probablement fragile. Il avait été instruit par sa mère, sa grand-mère, ça nous rappelle le texte que nous avons lu tout à l'heure. C'est aussi quelqu'un, Timothée, qui a bénéficié de l'enseignement de Paul. Il l'a suivi pendant de nombreux voyages de l'apôtre, imprégné de l'essence même de son message, témoin de sa conduite, de sa connaissance des Écritures, mais également des persécutions dont l'apôtre a été victime. Il a si bien appris et montré son implication, son engagement, que Paul lui a confié une lourde responsabilité à Éphèse, 1 Timothée 1, verset 3 et suivant. Voilà quelques indications sur la personne de Timothée. Et à ce Timothée, que dit Paul ? Toi donc, Timothée, fortifie-toi. Tu as besoin d'être fortifié. Timothée était certes un homme de foi, plein de qualités, mais plusieurs exégètes pensent que Timothée a été intimidé par l'opposition à laquelle l'apôtre Paul a été soumis, qu'il a lui-même rencontré dans une certaine mesure au cours des voyages qu'il a fait avec l'apôtre. Et sans doute s'est-il à plusieurs reprises senti menacé, sur la défensive, ou encore honteux peut-être. Honteux de devoir se faire le défenseur d'un prisonnier et de la folie du message qu'il prêchait, non seulement Paul, mais lui également, au sujet d'un certain Jésus-Christ méprisé et crucifié. 1 Corinthiens 1,18 à 2, verset 5. N'oublions pas que lorsque Paul écrit à Timothée, il est prisonnier à Rome. Une telle timidité est inconcevable avec l'annonce de l'Évangile. Le mot qui est utilisé dans la version grecque est le mot délias, qui veut dire lâcheté. Lâcheté qui n'a pas sa place dans le service de Dieu. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Corinthiens 2,4, 1 Timothée 1,5. Timothée avait donc besoin d'être encouragé, fortifié dans l'exercice de son ministère, afin de pouvoir tenir ferme face aux attaques de l'ennemi, sans avoir honte du service pour lequel Dieu lui-même l'avait engagé. Et Paul nous dit qu'il n'a cessé de recommander à son enfant bien-aimé d'être rempli de courage, d'amour, de maîtrise de soi, de fermeté dans la foi et dans la fidélité à Dieu. 2 Timothée 1, versets 16 à 18. Eh bien, il en est de même pour chacun de nous. Pour que l'œuvre de Dieu se poursuive à travers les siècles, et malgré les circonstances parfois difficiles, même si nous ne connaissons pas la persécution en France, l'œuvre de Dieu, pour qu'elle se développe, pour qu'elle soit source de bénédiction pour le plus grand nombre et amène de nouvelles âmes au salut, a besoin de chrétiens forts, fermes dans la foi. Non pas de cette force que nous pourrions trouver en nous-mêmes, non. Nos compétences, nos qualités, notre travail ne servent à rien si nous ne prenons pas conscience de notre faiblesse, de nos incapacités, de nos fragilités, comme l'était Timothée, de notre manque de pouvoir, nous ne pourrons rien. C'est dans la grâce de Dieu, dans le recours à Dieu, de tous les instants que nous pourrons trouver la force dont nous avons besoin à tous égards. C'est grâce à cela que nos anciens, je ne me tourne pas seulement vers Henri Blocher qui est là, mais vers tous ceux qui ont été fondateurs de nos églises, qui après avoir entendu, accepté le message de l'Évangile, se sont engagés à le transmettre fidèlement à d'autres, que nos églises aujourd'hui sont là, dans notre monde du 21e siècle, pour porter la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est à nous de continuer, de faire des disciples. C'est la méthode que Jésus a utilisée pour propager la bonne nouvelle. À nous de continuer, à nous de trouver des hommes et des femmes fidèles qui pourront nous remplacer lorsque nous ne serons plus là. C'est le défi pour nous aujourd'hui. Mais nécessité de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a été utile à Timothée. Elle l'est pour nous, enfants de Dieu, aujourd'hui. Pourquoi la nécessité d'une grâce et de la grâce de Dieu? Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous dit et nous redit sans cesse à quel point Dieu nous aime, à quel point nous avons de la valeur pour lui. Elle nous rappelle que Dieu, créateur des cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant, cela a été rappelé tout à l'heure, nous a sauvés pour devenir ses enfants. Il s'est penché sur nous. Il s'est approché de nous en Jésus-Christ. Et chaque jour, il se préoccupe de nous. Tout est grâce de la part de Dieu. C'est l'expression même de son amour. La première qualité de Dieu, c'est son amour. Son amour qui est notre force. C'est vers lui, vers cet amour infini de Dieu que nous pouvons nous tourner chaque jour, chaque heure, chaque instant de nos vies. Rappelons-nous. Et je pense que quand Paul s'adresse à Timothée, il veut aussi le lui rappeler que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Éphésiens 2:8, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle assurance extraordinaire. L'avez-vous expérimenté? Le pardon de Dieu, le salut offert en Jésus-Christ, sont-ils votre possession aujourd'hui? C'est les forces dont nous avons besoin, la grâce et le pardon de Dieu, pour aller chaque jour de l'avant. Surtout lorsque l'adversaire nous assaille, voire nous condamne. L'assurance du pardon et de la grâce de Dieu nous libère alors de toute culpabilité. Mais la grâce de Christ nous rappelle enfin que, en faisant de nous ses enfants, Dieu a pris place en nous. Par son Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est une grâce que nul ne mérite d'avoir l'Esprit de Dieu en lui. C'est un cadeau, un don de Dieu. Il suffit de la demander pour la recevoir. Et Jésus dira, en parlant de la bonté de Dieu, « À combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Saint-Esprit qui est notre force et qui nous permet d'être fort dans l'adversité. Alors ce matin, c'est à nous que Dieu s'adresse. Comme il l'a fait il y a 20 siècles, quand Paul écrivit à Timothée « Fortifie-toi dans la grâce, puise tes forces dans la grâce de Dieu, dans son amour. » C'est ainsi que Dieu se servira de toi pour que son œuvre s'étende jusqu'à l'heure de son retour. La deuxième instruction que Paul adresse à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » En voyageant aux côtés de Paul, Timothée avait entendu Paul s'adresser à des foules, à des personnes de toute origine. Il avait constaté que malgré cette grande diversité d'origine, le message de Paul n'était pas adapté aux besoins de chacun. C'était le même message pour tous. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ici, Paul rappelle à Timothée que ce qu'il a entendu, il ne faut pas le garder pour lui. Il est nécessaire de le confier à d'autres, de propager la bonne nouvelle, de former des disciples. Ce que tu as entendu, confie-le à d'autres. Si Paul parle ainsi à Timothée, son enfant bien-aimé, son enfant de la foi, c'est que Paul est conscient que ses dernières heures, ses dernières années de vie sont là, que la prison dans laquelle il se trouve à Rome ne lui permettra probablement pas de repartir vers d'autres rivages pour porter la bonne nouvelle. Et il a besoin que d'autres, dont Timothée, dont nous aujourd'hui, prenions la relève pour communiquer à d'autres la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour perdurer, l'œuvre de Dieu a besoin de témoins fidèles, de gens qui comptent sur le Seigneur. Remarquez qu'il n'est pas parlé que d'hommes. C'est d'hommes et de femmes auxquels Dieu s'adresse, prêts à porter à d'autres ce message extraordinaire qu'ils ont entendu, qui a transformé leur vie, et pour perpétuer cette chaîne d'amour, cette chaîne de transmission qui dépasse le cadre d'une vie, d'une génération. Sans cette transmission fidèle à d'autres, les choses s'arrêtent et la bonne nouvelle ne pourrait plus être portée jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le verset 2, Paul place donc Timothée devant ses responsabilités pour prendre conscience que ce message à transmettre est un double message, un double ministère. Il implique d'une part de prêcher la parole, c'est-à-dire d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, mais aussi de former de nouveaux chrétiens. Si nous sommes, pour un certain nombre d'entre nous, issus de milieux évangéliques qui avons été baignés dans la parole de Dieu depuis notre plus jeune âge, ça n'est pas le cas de tous. Et un grand nombre de ceux qui viennent de milieux totalement étrangers à l'Évangile ont besoin d'un enseignement profond, non pas de lait, mais de nourriture solide. Et Paul engage Timothée à faire ce que Jésus lui-même a ordonné à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, 19 et 20. Tout ce que je vous ai prescrit montre que la parole de Dieu ne change pas. Ce qu'il a donné du temps de Jésus et des apôtres, c'est ce que nous devons, nous aussi, confier aux générations futures. Nous n'avons pas un message nouveau. La bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose qui doit être adapté en fonction du temps ou des circonstances. Non. Nous n'avons qu'à transmettre ce que Dieu nous a demandé à d'autres, avec fidélité. Fidélité dans la parole, fidélité dans le souci de former des gens capables. Et cela va impliquer pour nous, comme pour Timothée, des sacrifices. Ce n'est pas facile que d'être un témoin de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul dit à son enfant bien-aimé, Timothée? Ce sera notre troisième point. Souffre, souffre avec moi. Une telle fidélité à la parole de Dieu, à l'enseignement, à la propagation de l'Évangile, va sans aucun doute impliquer inévitablement Timothée, comme l'a été l'apôtre Paul, à souffrir, à connaître des moments de difficulté, de détresse. C'est pourquoi, sans embellir les perspectives d'avenir de Timothée, Paul engage celui-ci à vivre comme lui, à être prêt à souffrir. On ne trouve cette expression « souffre avec moi » qu'à deux occasions dans le Nouveau Testament, en 2 Timothée 2, verset 3, et en 2 Timothée 1, verset 8. Un seul autre passage des Écritures contient une expression assez proche, même si elle n'est pas strictement identique. Elle se trouve dans l'Évangile de Jean, lorsque Jésus dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Jean 14, 18 à 20. En encourageant Timothée dans cette direction, Paul va utiliser des images de style, sans doute familières à ses lecteurs de l'époque, et il va prendre pour cela trois situations de la vie courante pour illustrer sa pensée. Celle du soldat, celle de l'athlète et celle du laboureur. Celle du soldat tout d'abord. Quel était le devenir d'un soldat? Son but, c'était de servir celui qui l'avait enrôlé, avec bien évidemment des règles, une discipline rigoureuse, une obéissance aveugle, un engagement de tous les instants, qui faisait de l'image du soldat une excellente illustration d'un bon serviteur de l'Évangile. En effet, l'image du soldat met en avant deux notions fondamentales pour tout chrétien engagé: l'esprit de sacrifice et le renoncement. Rappelez-vous les paroles de Jésus: si tu regardes en arrière, si tu te préoccupes plus de ta famille, tu n'es pas digne de travailler pour moi. L'image du soldat, engagé, enrôlé, obéissant. Et au moyen d'une métaphore, Paul va passer rapidement à l'image d'un athlète, semblable à celle que l'apôtre Paul utilise dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ici, c'est la notion de pratique d'exercice régulier, de discipline dans l'effort et d'obéissance aux règles qui est mise en avant. L'expression « suivant les règles » que vous trouvez là, du grec « nomimos », signifie littéralement « de façon légale ». Il y a bien des sportifs aujourd'hui qui ne respectent pas les règles et les consignes qui avaient été données à l'époque de l'apôtre Paul et du temps des premiers Jeux olympiques. Là, ce « selon des règles » peut se rapporter aussi à la manière d'arbitrer les compétitions, comme à la façon des athlètes de s'entraîner avant chaque compétition. Je vous donnerai un exemple que j'aurais trouvé dans des annales de l'olympisme. Quand un sportif du temps des premiers Jeux olympiques s'engageait à participer aux Jeux, il devait signer une décharge affirmant sous serment qu'il s'était entraîné assidûment pendant au moins 10 mois avant les épreuves. Un engagement de tous les instants. La structure de la phrase nous porte également à croire, compte tenu du prix attribué, la couronne, que pour emporter le prix, pour gagner, il faut avoir respecté les limites, les règles, fixé à l'avance, au risque de se voir disqualifié. Il en va de même pour nous. Le chrétien fidèle doit posséder de grandes qualités, comme par exemple la discipline personnelle, l'abnégation, la maîtrise de soi, l'endurance, la persévérance. On pourrait parler sur chacun des termes que je viens d'évoquer. Notre propos n'est pas là ce matin. La dernière image que l'apôtre Paul utilise décrit l'activité du laboureur. La formulation de ce verset, si vous le relisez, met l'accent sur la peine, le travail difficile, par opposition au travail des ouvriers paresseux. Une assiduité, une persévérance, une constance, c'est le propre du laboureur. Le travailleur des champs, ça n'est pas que celui qui récolte. Il a fallu préparer la terre, l'amender, semer, se préoccuper de voir croître ce qui a été semé, de voir grandir avant de récolter. Que ce soit dans le domaine militaire, dans le domaine du sport ou dans l'activité agricole, plus terre à terre, si je puis m'exprimer ainsi, Paul montre à Timothée que on ne peut arriver à rien sans travail régulier, assidu et sans persévérance. Mais les trois images précédentes, et j'aimerais insister sur cela, ont aussi un point commun: le succès. la réussite. Le succès couronne les efforts de celui qui sait se discipliner, de celui qui travaille assidûment afin de remporter la couronne, de celui qui travaille la terre pour obtenir une récolte. Ainsi, le soldat zélé reçoit l'approbation de celui qui l'a engagé. Il est fier de servir avec constance et fidélité ceux qui l'ont appelé. Et souvent, les militaires de carrière obtiennent une petite couronne ou une belle image qu'ils affichent sur leur veste en signe de reconnaissance du bon travail accompli. Pour ce qui est du sportif, c'est bien évidemment la joie d'obtenir la médaille du vainqueur. Au jour d'aujourd'hui, il y en a 3. Ce n'était pas le cas à l'époque. Effort assidu, récompense. Et pour encourager son ami Timothée, Paul lui recommande une chose qui est aussi valable pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Souviens-toi de Jésus-Christ. Alors pourquoi cela ? Tout simplement pour rappeler que Jésus-Christ a connu ici-bas une vie comme la nôtre, sans commettre le péché, mais qu'il a connu des heures excessivement difficiles, de rejet, d'oppression, d'abandon des siens, et surtout à l'heure de la croix, d'abandon du Père. Et que la gloire qu'il a obtenue, c'est le fruit de son obéissance à la volonté de celui qu'il a envoyé. Courage, courage. Si tu prends modèle sur Jésus-Christ, tu obtiendras le succès des réussites. En conclusion, j'aimerais insister sur le fait que pour perdurer, pour s'étendre, pour porter des fruits, l'œuvre de Dieu a besoin de nous. Pas que des Timothées, de nous. Timothée n'était peut-être pas quelqu'un de plus fort que nous en termes de connaissances, d'engagement, de travail. Mais il a participé à son échelle, avec l'aide de Dieu, dans chacune des étapes de sa vie, à la propagation de la bonne nouvelle. Alors toi, mon enfant, fortifie-toi. Communique, communique bien, témoigne, transmets fidèlement ce que tu as reçu. N'aie pas peur des souffrances, des difficultés, de l'oppression, de la persécution peut-être. N'aie pas peur des souffrances, du renoncement, de la discipline, du travail. Rappelle-toi tout ce que le Seigneur a fait pour toi et qu'à tous ceux qui lui obéissent, à ceux qui marchent fidèlement, il promet pour un jour des récompenses merveilleuses que le prophète Timothée rappelle sous cette phrase merveilleuse. Il y aura un salaire, une récompense pour tes œuvres, dit l'Éternel. Alors à notre tour, portons bien haut l'étendard, la bannière de notre Dieu, pour amener à notre tour des âmes au Seigneur pour sa seule gloire. Amen.